Je m'appelle Victor Canilla, j'ai 28 ans, je suis de Lausanne, j'ai fait des études à l'EPFL, donc j'ai terminé il y a 5 ans, et je vais vous donner une perspective qui est peut-être plus politique, plus économique, et plus du côté de l'ennemi en fait, parce qu'après l'EPFL, j'ai travaillé pendant 3 ans, entre autres jobs, dans un cabinet de conseil qui a pour vocation principale de donner des plans d'action pour des multinationales comme Holcim sur comment augmenter les profits. Alors, ce genre de cabinet de conseil fait aussi des gouvernements, fait aussi des ONG comme clients. Moi, j'ai essayé au maximum de faire des gouvernements et des ONG, on pourrait en parler après aussi, notamment sur les questions onusiennes, traités internationaux, traités intergouvernementaux, et la question de pourquoi les gouvernants n'agissent pas. Mais dans un premier temps, j'aimerais me concentrer sur cet aspect des multinationales plutôt. Comme point de départ, on pourrait prendre la biodiversité, bien entendu, c'est fondamental. La date de la colline était bâtie sur un couloir, des personnes ici peuvent l'expliquer bien mieux que moi, mais un couloir de passage, notamment de faune, entre les Alpes et le Jura. Il y avait aussi des espèces de faune et de flore qui sont rares. Je dis pas de conneries jusque là. Ok. Mais il y a aussi la question du climat qui est associée au béton. Le béton, c'est un processus industriel fondamentalement, je veux dire, on peut pas. C'est comme l'aluminium, quand on produit certains de ces matériaux de manière fondamentale, même si on n'utilise que de l'énergie solaire, ça va produire du carbone. Donc il y a ces gros problèmes. On peut aussi partir du climat, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui, et rappeler les courbes qu'on connaît tous, qui montrent ce qu'il faudrait faire en termes d'émissions. Pour des prochaines années, pour rester compatible avec du 1,5 et du 2 degrés. Déjà, j'aimerais rappeler que 1,5 à 2 degrés, physiquement parlant, ça n'a rien à voir. C'est pas une petite augmentation des causes génère une petite augmentation des conséquences. Ce sont des phénomènes intrinsèquement non linéaires qui ont des dimensions cataclysmiques. Là, on est plutôt dans des projections qui sont au-dessus de 3 degrés. 3 degrés, le Portugal, il n'y a plus. Ça ressemble au désert du Sahara. Les Alpes, c'est les monts Atlas au Maroc. Il n'y a plus de neige éternelle, il n'y a plus de glaciers. C'est des changements drastiques de la Terre telle qu'on la connaît, avec ce que je vous laisse deviner de conséquences pour les cours d'eau, pour l'agriculture, pour les modes de vie, bien entendu pour la faune et la flore. Donc c'est face à ce type de questionnement qu'on doit trouver des solutions aujourd'hui. Il y a un concept que vous avez peut-être déjà entendu parler qui est courant dans les sciences environnementales, qui est la question du découplage absolu. C'est une question de dire est-ce qu'on peut continuer à faire de la production de matériel, de la production économique, en gros du PIB, tout en diminuant l'énergie. Si on n'arrive pas à faire ce découplage et que l'énergie est extrêmement carbonée comme elle l'est aujourd'hui, toujours plus de 80% d'énergie fossile dans la consommation humaine de toute source, on a un problème gigantesque, parce que ça veut dire qu'il faut diminuer très rapidement les courbes pour rester à 2 degrés. 1,5, j'en parle même pas, on va le passer. Rester à 2 degrés, il faut diminuer drastiquement les émissions de CO2. Et en même temps, il y a cette question du découplage absolu, sur lesquels il y a une quasi-unanimité, un peu comme le fait que la Terre tourne autour du Soleil, ok ? C'est pas des sujets de débat scientifique, c'est que le découplage est impossible. Il n'y a pas de mode de production qui permette d'augmenter la production de marchandises tout en diminuant l'énergie. Donc c'est un argument clé de la décroissance en fait. Ça veut dire qu'il faut concrètement décroître la production totale. Bien entendu, la décroissance, c'est pour certains pays et c'est pour certaines entreprises. Il ne s'agit pas d'aller demander à des fermiers du Malawi de produire moins de leurs céréales alimentaires de base. C'est pour ici, c'est pour la Suisse, c'est pour Holcim. Maintenant, on va en venir à ce que c'est Holcim. Holcim, c'est une multinationale. Tout le monde connaît ce terme. Il faut dire concrètement comment c'est structuré. Une multinationale, c'est une entité qui est souvent structurée selon une société anonyme en Suisse, où il y a en gros un chef, un monarque, qu'on appelle le PDG, une Suisse, une dizaine de personnes autour de ce monarque, qu'on appelle les exécutifs, les cadres sup, la haute direction, et ensuite une chaîne de commandement pyramidale, où chaque personne a un certain nombre de subordonnés. Les subordonnés reçoivent des ordres de ces personnes et les passent plus bas dans la hiérarchie. L'histoire de la science du management est fondamentalement basée sur l'histoire militaire et sur les structures des régimes féodalistes. C'est des structures qui sont intrinsèquement hiérarchiques, opaques, on pourrait dire monarchiques ou oligarchiques ou tyranniques, et antidémocratiques. Quand un employé rentre dans un bureau d'une telle structure, il n'est plus en démocratie, ou elle n'est plus en démocratie. Donc, en plus, ces entités sont en compétition les unes avec les autres, donc elles doivent s'engager dans des courses propres. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que c'est absurde de parler de multinationales responsables. C'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. Sur la structuration actuelle de ce que c'est une multinationale, il n'y a pas de responsabilité. C'est pas que c'est une structure méchante, c'est pas que les gens de l'CIM sont méchants, c'est qu'ils sont amoraux. Pas immoraux ni moraux. Les questions éthiques ne rentrent pas en considération. C'est pas la bonne structure, c'est pas la bonne entité. Ce serait comme, je pensais à ça en venant ce matin, peut-être c'est une métaphore pourrie, mais je vais la dire quand même, ce serait comme devenir un chat, demander à un chat de devenir vegan. Ça n'a aucun sens. Vous pouvez essayer toute la journée, Holcim ne va pas décroître parce qu'on leur montre scientifiquement qu'il y a des éléments tangibles et scientifiques pour dire qu'il faut faire de la décroissance. Donc que faire? Parce que c'est ça qu'on appelle le capitalisme au final. Hein. Ces entités, en fait, le PDG, le monarque, est lui-même ou elle-même soumis à des directives. Le PDG a un chef, ça s'appelle le conseil d'administration, c'est un comité qui représente les actionnaires. Tout ça veut dire qu'en fait, les décisions qui sont prises dans une multinationale viennent exclusivement du désir de rentabilité d'investissement des actionnaires. C'est ce que les marxistes, qui sont probablement la meilleure école de pensée économique pour analyser le capitalisme, appellent l'accumulation de capital. Maintenant, c'est ça le combat qui est de dire comment est-ce qu'on fait du post-capitalisme ou de l'anticapitalisme des structures de production qui sont compatibles avec de la décroissance ou avec ce genre de concept. Alors, bien entendu que les expérimentations locales sont extrêmement importantes. Les jardins collectifs, des structures en petits comités extrêmement horizontales, démocratiques, éco-responsables, c'est très important. C'est pas la seule approche. Il y a aussi des approches qu'on pourrait dire macro, qui est qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces grandes entreprises et tous les gens qui y travaillent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept qu'un Américain qui s'appelle David Schweikart théorise comme triple démocratie. Et on rentre un petit peu dans la thématique de que faire des gouvernements. La triple démocratie, ce serait de dire qu'il n'y a pas que la démocratie des structures telles qu'un gouvernement qui doit être démocratique, rendre des comptes, être un minimum transparent et avoir un état de droit où tout le monde est soumis à un règlement commun. Ça, c'est le premier aspect de la triple démocratie. Ce serait la démocratie institutionnelle du gouvernement. Et on peut la discuter. Même en Suisse, qui est souvent prônée comme un exemple de démocratie dans le monde, on peut mettre sur la table le fait que la Suisse est une démocratie. Personnellement, je pense qu'il y a de très bons arguments à dire pour que c'est une démocratie extrêmement imparfaite. Maintenant, les deux autres aspects de la triple démocratie, ce serait la démocratie au travail et la démocratie du capital. Ce que ça veut dire, c'est que le capital, les investissements, les flux financiers ne sont plus dirigés par les gens qui en ont accumulé des tonnes. On les connaît tous, hein, les rappeurs de Oxfam et de machin, les 1%, les 0,1%, les 0,0001% qui possèdent autant que je ne sais pas qui et qui sont gavés ces 40 dernières années et à qui tous les fruits de la destruction écologique des 40 dernières années sont quasi exclusivement arrivés dans ses poches. Mais c'est de dire les investissements et les flux de capitaux sont eux aussi décidés de manière démocratique. C'est-à-dire des banques alternatives, c'est-à-dire des banques publiques, c'est-à-dire des autres structures de où vont les investissements. On sait là, actuellement, Holcim doit investir pour continuer à péter la colline. Mais ils ne vont pas demander l'avis du peuple sur comment investir ces capitaux. Donc il y a un problème fondamental. On peut discuter de à quel point les gouvernants et les IPBES et les GIEC peuvent mettre en place des mesures. Ben, tant qu'il y a ce pouvoir fondamental des capitaux qui sont dirigés selon une structure, une logique de ceux qui ont les capitaux décident de où ils sont alloués, on est en train de demander aux GIEC et à l'IPBES et à des gens au ministère de l'Environnement de se battre contre des mastodontes à armes complètement inégales. La troisième partie de la triple démocratie, ce serait la démocratie au travail. Donc ça serait le concept de coopérative d'employés. Il y a d'autres types de structures qui peuvent être envisagées. Hein. Mais aujourd'hui, je veux dire, on ne peut pas faire non plus... excusez-moi, je suis déjà en train d'être trop long probablement. Mais c'est une alternative parmi d'autres. C'est un truc parmi d'autres. Fondamentalement, une coopérative d'employés, ça voudrait dire une entreprise, même gigantesque comme Holcim, surtout gigantesque comme Holcim, n'est plus régie selon ce que je vous ai décrit avant, qui est une pyramide avec en haut un monarque et des ordres qui cascadent à travers la chaîne, mais par des comités d'employés qui autodirigent, qui peut-être font des comités de délégation pour avoir des élus, comme on fait avec nos gouvernements, qui vont prendre des décisions, parce que évidemment, une entreprise, je sais pas combien ils ont d'employés, 20, 30, 40 000, ne peut pas prendre à vote à main levée toutes les décisions. Donc peut-être qu'il faut des niveaux de représentativité. Il y a une entreprise en Espagne qui s'appelle Mondragon, qui est souvent citée comme exemple que ça peut marcher, qui a 60 000 employés. Et qu'il y a des règles, par exemple, pour qu'il y ait un écart maximal de salaire à l'intérieur de l'entreprise qui soit un facteur 12. Donc c'est pas encore l'égalité parfaite. Mais c'est une bonne piste, quand même. Tout ça pour vous dire, il y a des exemples, ce sont des conditions nécessaires mais non suffisantes, comme on dit en jargon de logicien, c'est-à-dire que essayer ces trucs n'est pas garanti de faire un monde tout rose, mais ne pas les essayer, c'est garanti de grosses catastrophes. Et il y a des plans actuellement, vous avez peut-être entendu parler des plans du Labour Party au Royaume-Uni avec Jeremy Corbyn, qui avait fait un plan de OK, comment est-ce qu'on transforme les grandes multinationales actuelles structurées selon cet actionnariat privé en coopératives employées. On pourrait dire pourquoi est-ce que toutes les entreprises qui sont fondées au parc d'innovation à Yverdon ou à l'EPFL dans le parc technologique, etc., sont elles aussi structurées selon des sociétés anonymes qui vont forcément soit mourir, soit répliquer la structure actuelle qui pose problème. On pourrait forcer, on pourrait mettre des lois très simples qui diraient, voilà, maintenant toutes les nouvelles entités de ce type sont structurées comme des coopératives d'employés avec des fonds apportés par des banques alternatives et des banques publiques. Il y aurait d'autres mesures, je laisse peut-être ouverte à des questions plutôt que de continuer. Et puis voilà, j'espère que ça a donné quelques pistes de réflexion.
Merci. Merci.
Alors déjà, l'alibi éternel pour dire que la Suisse est un grand exemple de démocratie, c'est l'initiative et le référendum. Il faut voir dans quel contexte l'initiative a été créée. Je ne suis pas un expert du droit suisse, mais il me semble que ça date des années 1870, quand il y avait cette classe fondamentalement bourgeoise qui était structurée autour du parti radical, qui a créé un truc, ou qui a toléré ce mécanisme. Et il y avait déjà dans les discussions à l'époque du parti radical le fait de dire, à nouveau, peut-être je dis des bêtises, s'il y a des intervenants dans l'audience qui veulent corriger, ça fait un peu vulgaire, la foule en colère, qui veut apporter des précisions, c'est volontiers. Mais il y avait déjà des débats fondamentalement de dire, est-ce qu'on va pas donner trop de démocratie si on fait l'initiative? Et il y a des mémorandums internes qui montrent qu'en fait le débat c'était de dire, non mais c'est parfait, parce qu'on donne l'illusion de démocratie et en fait rien ne va changer. J'ai lu aussi récemment la citation d'un rapport de l'OCDE qui disait « Si on veut que rien ne change, les choses doivent changer ». Donc c'est l'idée en fait des gouvernants de donner des illusions de changement afin de contenter. Donc je ne suis pas en train de faire le complotiste, il y a aussi du bien avec le droit d'initiative. Mais factuellement, si on regarde depuis 1870, il y a eu quoi, 130 initiatives de mémoire et peut-être 15 qui ont passé, la majorité de l'UDC. Pardon ? Ah non, je croyais qu'il y avait une correction. C'est un mécanisme qui est loin d'être parfait. Il est bien, mais pour chaque loi qui est votée, qui vient d'une initiative, il y en a 1000 qui passent au Parlement en toute opacité ou en semi-transparence. Donc c'est un peu un leurre de démocratie. Maintenant, l'autre gros problème, c'est que ça, ces deux instruments, initiative et référendum, et je ne suis pas en train de critiquer toutes les initiatives, je pense que c'est très bien, ça met sur la table des sujets comme les multinationales responsables, ça met sur la table des micro-taxes sur la finance, ça met sur la table les trucs sur les pesticides de synthèse qu'on avait en juin dernier. Donc c'est des outils intelligents, hein, mais je dis juste qu'il ne faut pas les surestimer. Il faut rassembler 100 000 signatures. Comme vous le savez, des partis comme le PLR ou l'UDC payent des gens dans la rue pour aller récolter des signatures. $1, $1.50, $2 la signature. Quand la grève du climat fait une initiative, c'est que des bénévoles, hein. Il n'y a pas de gens qui vont aller se faire payer à la signature. Donc il y a une asymétrie des armes, y compris en utilisant l'initiative. Ensuite, la question du Parlement. Déjà, il y a la question de la représentativité. Au Parlement, moi, il me semble qu'il y a une surreprésentativité d'avocats, de banquiers, etc. Je ne veux pas faire de la haine des avocats et des banquiers. Loin de là, je suis un EPFLien ex-ingénieur, donc je serais bien mal placé. Par contre, une chose est sûre, quand on se balade dans la rue, on ne voit pas tant d'avocats que ça. Donc il y a une erreur de la représentativité. Il y a très peu de familles populaires, de personnes d'origine populaire dans les parlements, pour plein de raisons sociologiques. Qu'on pourrait détailler, mais je pense que vous avez déjà entendu parler de gens de faiblesse. Et enfin, il y a toutes les portes d'entrée au sein d'un gouvernement, que ce soit le Parlement, que ce soit le Conseil fédéral, etc., pour des intérêts privés de venir s'immiscer. Alors on parle tout le temps des lobbies. c'est, je dirais, la pointe émergée de l'iceberg. Il y a tout un ensemble d'autres façons de la part d'intérêts privés de venir parasiter les processus publics de démocratie représentative, notamment le financement des partis. C'est quand même grave. On ne peut pas se prétendre être une démocratie sérieuse et avoir une opacité totale sur la façon dont certains partis tirent leur argent. On pourrait parler de plein d'autres problèmes, notamment liés à l'information. Comment les médias sont-ils structurés en majorité, par exemple? C'est un autre problème fondamental pour la démocratie. On pourrait parler de la collusion du pantouflage et rétro-pantouflage, telle ou telle personne qui fait 10 ans au gouvernement et qui ensuite passe au cadre à Outsy, mais qui ensuite retourne dans le gouvernement je ne sais pas où. Je pense que si vous regardez le parcours, le CV des conseillers fédéraux, comme dit Thomas Wiesel, on dirait qu'il ferait peur à James Bond, ça. En termes de carrière dans le secteur. Donc voilà, ce serait quelques pistes. On pourrait parler de la publicité aussi. Donc tous ces trucs parasitent, on dit, la soi-disant démocratie suisse, je pense.
Tu avais une précision sur Mondragon qui n'est pas parfaite, hein, je voulais juste donner un exemple.
Ouais, mais justement, un exemple qui est encore beaucoup plus parfait et beaucoup plus près de chez nous, c'est l'entreprise Scoffal qui est basée à Lausanne, qui font de l'installation sanitaire. Cette entreprise est née sur la faillite d'un employeur et c'est les employés qui ont repris l'entreprise avec leur deuxième pilier. Et depuis, cette entreprise fonctionne très bien. Ce sont les employés qui dirigent par comité. Hein, et cette entreprise ne croît pas, ne décroît pas, elle est juste stable, elle paye des salaires corrects et pour le facteur, on en est à 1.1 sur 3.
Merci.
Donc c'est possible chez nous.
À fond, merci beaucoup, c'est un peu spontané du coup comme prise de parole. Du coup, n'hésitez pas à venir avec des questions. Comme ça a été dit, moi je travaille donc en philosophie du droit sur les questions de désobéissance civile. Et j'étudie ces mobilisations par le droit, du droit, par les militantes et les militants depuis de nombreuses années. Et puis ici, disons ce que je peux vous amener qui est un peu différent aussi, c'est le positionnement situé, parce que ça fait le lien avec ce qui vient d'être dit avant. C'est qu'un des problèmes principaux qu'on a dans les mobilisations du droit, c'est effectivement qu'il y a une très faible conscience du fait que c'est un instrument extrêmement privilégié, que les personnes qui y accèdent ont des profils extrêmement particuliers. Et il y a des écarts extrêmement grands entre la possibilité qu'ont les militantes et les militants de mobiliser le droit et l'accès aux institutions de droit et l'accès à la compréhension aussi du droit. Donc ça, c'est peut-être un truc rien qu'au niveau de l'accès à la justice qui est extrêmement compliqué pour les luttes parce que pour pouvoir être reçu dans une démocratie constitutionnelle, un état de droit, les luttes doivent être traduites dans un langage du droit et un langage du droit qui opère une transformation en fait sur ces luttes en les obligeant à passer dans un espèce d'entonnoir qui va les façonner d'une certaine manière. Je vous coupe les termes techniques de philosophie, mais en gros c'est ça. Donc on les retranscrit d'une certaine manière et dans ce passage en fait de l'un à l'autre, on perd des caractéristiques essentielles de la lutte, notamment son caractère collectif, parce que donc l'atome individuel du droit libéral tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est l'individu. Donc tout fonctionne autour, tout l'ordre juridique est construit autour de cet atome-là. Et donc il y a une difficulté assez grande à retranscrire des mobilisations collectives, mais aussi des mobilisations politiques, la dimension politique de cette lutte, dans un outil qui lui ne fonctionne que sur cet atome. Donc ça c'est peut-être un présupposé à avoir. L'autre chose à savoir, c'est qu'il y a une absence de socialisation des personnes du monde juridique à la question des privilèges. Donc il n'y a pas vraiment une réflexion sur d'où on vient, est-ce qu'on est situé, est-ce que notre expérience est réellement diverse, représentative de différents contextes d'oppression, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui changent avec le temps, qui est aussi un objet de lutte interne au champ juridique sur la diversité. C'est quelque chose qui change depuis quelques années avec les femmes avocates, c'est quelque chose qui change un peu avec une démocratisation des universités, mais c'est là aussi où on voit un continuum dans les luttes. Parce que le fait que les facultés de droit soient extrêmement élitistes en termes de qui accède à ces études, qui reste dans le milieu, qui ensuite peut avoir supporter les conditions de travail qui vont avec, etc., a aussi un impact sur du coup comment ce droit évolue. Ça, c'était les deux choses principales que je peux amener d'une telle belle, je crois. Et puis, après, j'aurais plus de facilité si vous me posez des questions, mais je crois que je voulais aussi parler de la question de la science engagée, parce qu'elle fait sens aussi par rapport à cette question de... Ouais, on va pouvoir parler de ça.
Alors moi j'aimerais revenir sur les avocats à droit. Et personnellement, moi, c'est systématique quand je vote. Je biffe toujours les juristes et les avocats.
Souvent.
Toujours. Pourquoi ? Parce que très souvent, pour avoir travaillé 20 ans aussi avec passablement d'avocat, en fait, l'avocat n'est pas du tout un créatif. Et en fait, même à l'état de veau, un exemple très simple, vous avez des services à l'état de veau qui sont avec des gens très créatifs, notamment les économistes, qui ont plein d'idées pour créer plein de projets. Et ces projets, ils tombent presque toujours à la trappe à cause des juristes, parce que le juriste va toujours vous dire « Non, non, mais ça, c'est pas possible, c'est trop idéaliste, ça joue pas, c'est impossible. » Et en fait, à mon avis, le problème de la Suisse, c'est qu'on a beaucoup trop de juristes, trop d'avocats, et que si vous voulez bien voter, votez jamais pour les juristes.
Il y a beaucoup d'avocats de droite, hommes, cis, PLR, mais il y en a aussi d'autres. En fait, la question des juristes créatifs, c'est aussi qu'on leur apprend ça. C'est vraiment la question de la philosophie aussi du droit qu'on étudie, qui n'est pas du tout... Enfin, là, il y a une quasi-hégémonie, donc en fait, il n'y a quasiment qu'un seul rapport au droit qui est étudié et enseigné dans les facs. Et c'est pour ça aussi que la lutte se passe aussi à l'université, aussi dans les champs de savoir, parce que en fait un droit créatif, des juristes créatifs, il y a des courants marxistes du droit, il y a des courants critiques du droit, tous ces courants ont des choses à dire, mais ils sont sous-représentés parce que toujours portés par des personnes déjà minorisées au sein des institutions, qui n'obtiennent pas de budget, qui n'obtiennent pas de cours, etc., etc., etc. Et donc il y a vraiment aussi un enjeu à chercher comment favoriser aussi ces notions critiques, mais qui est une tendance qui est aussi qu'on constate à l'échelle de l'entièreté de la société. Donc c'est aussi le lien qu'on a entre ces différentes luttes, c'est que dans chacun des espaces de pouvoir ou des espaces de travail où on est, on a un pouvoir d'action dans la repolitisation de l'activité du quotidien, dans la revalorisation de la critique et justement dans le fait d'aller chercher des solutions créatrices. Mais c'est vrai que les juristes, on leur apprend des choses très carrées depuis le départ, et s'ils n'ont pas une expérience de vie qui fait qu'ils ont des raisons d'autres de douter de cette vision du monde, c'est assez facile de rester avec ses œillères.
Je voulais juste réagir parce que, en fait, moi, je fais des études de droit, je suis avocat. Et puis, c'est vrai que ce qu'on nous apprend dans les systèmes européens, c'est le droit positif. Donc, on nous dit, le droit, c'est ça, il faut travailler avec ça. Dans les systèmes anglo-saxons, on va nous apprendre à l'histoire un peu du droit. Donc, on connaît la règle, mais en fait, les élèves anglo-saxons dans les universités, ils sont habitués à discuter. Donc ils connaissent les avis des juges, de la Cour suprême, etc. Et puis après, ben, il faut amener des arguments. Nous, on ne discute pas vraiment d'où viennent les lois. Donc c'est peut-être aussi pour ça que, ben, comme vous parliez que les juristes étaient un petit peu pas très créatifs, en fait on ne leur apprend pas à être créatifs, on leur apprend à appliquer ce qui est là. Donc si il y avait plus d'histoire du droit ou plus de philosophie du droit, ça, c'est pas des cours très valorisés dans le cursus, mais ça permet de savoir d'où viennent les idées et pourquoi on a pris tel ou tel choix.
Et l'enjeu peut-être avec ça, c'est aussi du coup de travailler sur cette notion interprétative du droit et de recomplexifier le rapport au droit. Et c'est là où ces procès sont aussi intéressants pour la lutte, parce que ça, c'est aussi un des enjeux, c'est pas d'avoir une lutte qui devient plus que juridique. Enfin, à ce moment-là, on dépolitise aussi complètement la cause. Donc de l'avoir comme un des éléments dans la palette, des actions à disposition, et au sein du champ, en fait, de rethématiser ici ce qui se fait quand des avocats, avocates X utilisent des notions qui, en apparence, ne fonctionnent pas très bien pour une certaine situation ou essayent de l'appliquer à des faits nouveaux. C'est une manière aussi de remontrer cette nature interprétative, le caractère argumentatif, et puis le fait qu'on a une marge de manœuvre dans le jeu de qu'est-ce qu'on fait et comment on tisse en fait ce droit pour qu'il soit en adéquation avec des réalités sociales.
Ouais, comment tu perçois cet acharnement qui est fait sur la cause de la ZAD avec, et puis sur la procédure aussi du procureur qui maintient des peines de 2 à 3 mois de prison ferme, alors même même si Holcim n'est pas pardonné, mais Holcim a retiré sa plainte, du coup il y a vraiment une sorte de déter comme ça, des procs à maintenir la répression. Comment tu vois cet acharnement-là? Et aussi, est-ce que tu as l'impression que ça sert à quelque chose d'être devant le tribunal? Est-ce que Stoll, Enco, ça change quelque chose pour eux de nous voir? Ou est-ce que c'est surtout un impact vers la société? Est-ce que tu as l'impression que ce genre de mobilisation aussi, elle influence voilà.
Je suis un peu empruntée par les multiplications de casquettes pour répondre à ta question, mais pour l'impact d'être ici, je pense que ça, et c'est ce qu'on fait quand on milite, c'est qu'en fait, c'est important pour le collectif qu'on est ici, ce genre de mobilisation. On apprend des choses, on se retrouve, on crée des liens, et ça, c'est éminemment politique, le fait de faire ça. Après, l'impact que ça a sur les personnes, il y a une forme de rapport de force, peut-être, en termes de juste montrer qu'il y a une communauté, qu'il y a quand même une mobilisation, que des personnes viennent, etc. L'impact individuel, je suis incapable de répondre là-dessus de manière sérieuse parce qu'on ne peut pas le quantifier. Enfin, moi, je n'ai pas les éléments en main pour le quantifier. Pour ce qui est de manière quantitative des peines, du fonctionnement, etc., ce qu'on peut dire que ça démontre, c'est effectivement toute cette incompréhension contre les institutions judiciaires pour les dynamiques des mouvements sociaux. C'est vraiment un enjeu de mécompréhension des dynamiques des mouvements sociaux. Il y a une crainte très forte de ce que c'est, et il y a des amalgames qui sont faits, énormes, sur des situations à partir de quel moment une contestation devient violente, ce genre de choses. Et ça, c'est clair que ce qu'on peut observer quand on suit ces différents procès pour l'instant, c'est qu'ils y voient dans tout ça une menace. Et une menace pour quelque chose qui leur semble essentiel, qui est l'état de droit. L'état de droit qui vient avec tout un certain nombre de présupposés, d'idéologies, qui est lié justement au fait de préserver des valeurs libérales. Donc évidemment que la menace est très forte, est conçue de manière forte. Après, il y a aussi des éléments de procédure par rapport à tous ces... et là, je ne veux pas rentrer dans des détails techniques ou juridiques, mais sur comment ça se passe. Peut-être juste ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour les membres de l'institution judiciaire et les juristes, ça c'est quelque chose que je constate quand je parle avec des collègues qui sont avocats ou juristes, il y a une grande difficulté à se mettre à la place des personnes non juristes et à comprendre la complexité du langage et du système juridique. Donc, il y a aussi ces enjeux-là avec cette idée de, quelque part presque naïve, que si les personnes se défendent d'une certaine manière ou mal ou font des erreurs entre guillemets dans certaines choses, c'est aussi parce que finalement c'est de la mauvaise foi, etc., etc. Je suis pas sûre d'avoir répondu complètement à ta question, mais c'est un peu ce que je peux dire à ce stade.
Je me demandais par rapport à justement à l'accès à la justice dont on parlait au tout début et puis à la créativité dans le droit, qu'est-ce que vous pensez des procédures en cours contre des personnes inconnues encore?
Au niveau des avocats textes, c'est hyper intéressant. Enfin, au niveau du droit, d'un point de vue purement juridico-juridique, c'est très intéressant parce qu'on a des questions non traitées. Donc on fait vraiment ce qu'on appelle en théorie du contentieux stratégique. Donc on va utiliser une action pour essayer de voir comment l'institution réagit et si on va pouvoir obtenir des droits de cette mobilisation-là, du droit. Et la question des inconnues est intéressante dans la mesure où c'est une des premières fois en fait qu'une bonne partie de ces questions sont posées. Et en ce sens-là, ça peut ouvrir des portes. C'est aussi un jeu dangereux parce que ça peut aussi enfermer de manière assez définitive. Donc ça, c'est l'aspect mobilisation du droit. Après, si on regarde ça d'une perspective militante, c'est évident que j'espère que pour les mouvements, Ça va nous permettre de réfléchir à la question de la surveillance, à notre rapport à la justice, à notre rapport à l'engagement public, et nous obliger aussi peut-être à réfléchir à nos modes d'action. Mais ça, c'est extrêmement personnel et je pense que vous aurez beaucoup plus de choses à dire là-dessus que moi. Ouais, voilà. Mais par contre, effectivement, volonté très claire de rien laisser passer et volonté quand même assez répressive de vouloir poursuivre à tout prix, ça c'est certain. Et de nouveau, on retombe dans ce que je disais tout à l'heure.
Inconnu ou connu, peu importe, la légitimité du combat, au fond, depuis des dizaines d'années que les gens se battent et se confrontent à la justice par rapport aux droits de l'environnement, de la protection, de la biodiversité, qui sont liés au droit international, par rapport aux conventions des droits de l'enfant, par rapport des victimes, parce que là on est face à des questions de victimes. Le lien avec l'application des conventions internationales, la légitimité de ce combat, comment est-ce qu'elle peut être niée?
Alors en tout cas, c'est sûr que contrairement à d'autres luttes, on a les instruments de droit généraux qui permettent d'appuyer la lutte. C'est certain. Après, les mouvements sociaux n'ont jamais eu besoin d'attendre que le droit leur reconnaisse un droit pour le demander. Ça, c'est juste factuel. Effectivement, il y a ces choses-là. Ça met juste en œuvre qu'en fait, demander des droits sans ensuite avoir une mobilisation peut rester une coquille vide. Et c'est peut-être ça que ça souligne surtout. C'est qu'en fait, certes, pour toutes les raisons qu'on a énoncées avant, vu que le droit est quand même toujours difficile d'accès, à mobiliser, etc., si on n'a pas un fort mouvement derrière pour le mobiliser, le risque, c'est celui qu'on a actuellement, c'est qu'on a des conventions internationales, on a des éléments de recherche, mais ils ne sont pas pour autant mobilisés. Et donc là, il y a quelque chose de très beau dans les procès qui se font, parce qu'en fait, ça met aussi les juges et les juristes face à des sources du droit qu'ils n'ont pas l'habitude de manier. Et puis, ça repolitise aussi les tribunaux locaux, ce qui est extrêmement positif, parce qu'avec le droit international, on a toujours l'impression que c'est le ciel des idées, très loin de nous, qui ne concerne finalement que les cours internationales, alors qu'en réalité, déjà dans des juridictions de première instance, il y a des enjeux constitutionnels qui se posent.